Retour sur un week-end politique dense, marqué notamment par le congrès du FLNKS. Vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Attention au risque requin, les attaques ont été nombreuses ces dernières semaines et le risque est accru entre janvier et mars. La communauté sino-vietnamienne en fête demain soir pour le Tet. Elle est accompagnée par des plats traditionnels, présentation dans ce journal. L'actualité en métropole, Elias, 14 ans, tué pour un téléphone portable, l'affaire suscite de nombreuses réactions. Et puis à l'étranger, le sort d'une otage fait vaciller l'accord de cessez-le-feu au Proche-Orient. Elle est détenue par le djihad islamique et aurait dû être libérée le week-end dernier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous prolongeons par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Toute l'actu sport pour revenir évidemment sur les principaux résultats et nous parlerons tennis avec une nouvelle victoire pour Yannick Sinner.
Oui, Melbourne qui a choisi son roi et sa reine, l'un garde sa couronne, l'italien Yannick Sinner qui a donc tenu son rang en battant l'allemand Alexander Zverev et prouvé qu'il porte bien la casquette de numéro 1 mondial. Chez les dames, Madison Keys a créé la surprise en détrônant la double tenante du titre et première joueuse mondiale, Aryna Sabalenka. Tout vient à point qui sait attendre. 8 ans après sa première finale de Grand Chelem disputée, l'Américaine a enfin remporté son premier titre majeur sur le circuit mondial.
En football, nous reviendrons sur les derniers matchs de la 19e journée de Ligue 1 et la défaite de l'OM.
L'OM qui a coulé à Nice et qui enchaîne un troisième match d'affilée sans succès en manquant l'occasion de réduire l'écart avec le PSG. Défaite 2-0, les Niçois de leur côté en profitent pour remonter à la 4e place. On retiendra aussi ce match nul arraché par les Nantais face à Lyon, 1-0. Encore un point important de prix pour les Canaries de Comboiré contre le 6e de la Ligue 1 et le FC Nantes qui tente petit à petit de s'éloigner de la zone rouge.
Et puis dans la page consacrée à l'actu sport en Calédonie, nous parlerons de la reprise de la saison des trails avec notre invité.
Ouais, déjà la rentrée pour les aventuriers avec le Blue Trail qui sera le premier événement de l'année organisé par Pro Evans le dimanche 23 février au départ du Yala Ranch de Dimbéa. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Nous en parlerons en compagnie de Julie Prunet, l'une des responsables de l'organisation chez Pro Evans.
Le magazine des sports a retrouvé donc dès la fin de ce journal. Le week-end a été marqué par les rassemblements indépendantistes. Le PALIKA, qui réunissait une assemblée générale à Wailou, et l'UPM, un comité central à Dumbéa, ont tous les deux réaffirmé leur souhait de reprendre les discussions sur l'avenir institutionnel et se placent toujours en retrait du FLNKS. Des décisions prises par les nouvelles instances du front et la ligne de conduite suivie désormais par ce front indépendantiste. Le FLNKS qui tenait son 44e congrès à Saint-Louis. Je vous propose de retrouver tout de suite la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Le FLNKS ajoute le ridicule à la provocation. La provocation, c'était la convocation de ce 44e congrès ou pseudo-congrès à Saint-Louis, base arrière et cœur névralgique de la CCAT, empêchant de fait toute réunification du camp indépendantiste. Le ridicule, c'est l'absence de discours d'ouverture, remplacé par la lecture d'une missive de Christian Théin, envoyée depuis sa cellule de Mulhouse. Franchement, il ne se trouvait personne parmi les dirigeants des multiples partis qui forment le nouveau front, capable de s'adresser aux délégués pour qu'il faille avoir recours à ce pitoyable artifice. D'autant que cette lettre signée par le leader incarcéré, mais écrite par on ne sait qui, manque singulièrement de souffle et qu'elle enchaîne les platitudes. Elle répète que le FLNKS veut la pleine souveraineté et que c'est la seule chose dont il veut parler dans les prochaines discussions avec l'État. Ce n'est pas franchement nouveau. Un FLNKS qui se pose en outre comme seul interlocuteur, alors qu'il est sous sa forme actuelle, largement contesté par la mouvance indépendantiste. La seule nouveauté, si l'on peut dire, c'est le calendrier. Ils avaient tenté la déclaration unilatérale d'indépendance au 24 septembre 2024. Ils l'avaient repoussée d'un an au 24 septembre 2025. On est maintenant sur une perspective plus floue, avant l'élection présidentielle de 2027. Tout cela n'est pas sérieux. Comme d'ailleurs les rodomontades sur le rôle incontournable des Nations Unies, alors que depuis 3 ans, le FLNKS n'a trouvé aucun appui international dans sa contestation du 3e référendum, si ce n'est celui de l'improbable groupe Initiative Bakou du dictateur Aliyev. C'est lui qui est derrière la constitution du Front international de décolonisation, le FID, dont le congrès constitutif s'est tenu ces derniers jours à Nouméa. Un événement relayé sur les réseaux sociaux de Bakou qui se vante que le drapeau de l'Azerbaïdjan flotte de nouveau en kanaki. Tout cela est pathétique. Mais Paris ne s'y est pas trompé. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, et le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, sont immédiatement montés au créneau pour dénoncer ces opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan. des condamnations relayées par plusieurs responsables politiques, ce qui traduit une réelle prise de conscience. Et après bien des atermoiements dus notamment à la crise politique nationale, l'État semble décidé à débloquer la situation en convoquant enfin des discussions à Paris, avec, semble-t-il, la volonté d'aboutir, même si la date du 31 mars pour la signature d'un accord n'est plus forcément un totem. Alors, qui sera autour de la table et dans quel état d'esprit ? Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Mais il faut garder à l'esprit que les outrances du FLNKS-CCAT ne sont pas partagées par tout le camp indépendantiste. Le PALIKA et l'UPM, réunis en formation unie, ont la volonté de faire avancer les choses. Et à l'intérieur de l'UC, tous ne sont pas forcément aussi vindicatifs que ceux que l'on a entendus ce week-end. Les partisans de la France veulent eux aussi que les choses avancent, avec la détermination de faire respecter le résultat des trois référendums d'autodétermination qui ont rejeté l'indépendance et inscrit l'avenir de la Calédonie dans la France. Reste le cas de Roquemiton, qui s'est encore signalé à Saint-Louis par des propos d'anthologie. Il annonce qu'il y aura encore des morts, mais on va continuer, dit-il, parce que l'on vit une sorte d'esclavage. Comment qualifier de tels propos, inspirés à la fois par l'amertume et par la peur ? Dérisoire, pathétique ou ridicule ? Mais heureusement pour lui, ça fait longtemps que le ridicule ne tue plus.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve donc à partir de cette semaine, vous le savez, elle est rediffusée sur l'antenne de Radio Rythme Bleu juste après le flash de 16h cet après-midi. Et vous pouvez également la retrouver sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La France doit-elle prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h38, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et notamment cette attention à porter au risque requin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur, fermer les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie est prudence pour les baigneurs ou les pratiquants d'activités nautiques sur le lagon. Les signalements de requins sont nombreux en ce moment sur l'ensemble du territoire, Nicolas Legrand.
Oui, des squales qui ont attaqué à 3 reprises dernièrement, faisant d'ailleurs un mort à Koumac. Le docteur Claude Maillot, spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale, était notre invité du matin à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Et pour lui, c'est une recrudescence habituelle en cette période de l'année.
J'ai des données fiables pour affirmer qu'on est dans une période à risque et malheureusement pas pour l'expliquer. Après, les explications sont des hypothèses. Les attaques de requins en Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement pendant les mois d'été avec donc janvier, février, mars, avec un pic au mois de mars. Alors peut-être parce que c'est la saison de reproduction de certaines espèces prédatrices. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. On sait qu'il y a un maximum d'attaques à la tombée de la nuit, par au trouble, personne seule, présence de matière organique dans l'eau. Et c'est vrai, en Nouvelle-Calédonie, dans 25% des attaques. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, 75% des attaques échappent à ce schéma et peuvent se sont produites alors que ces facteurs de risque n'étaient pas présents, c'est-à-dire en plein milieu de journée, plein soleil, eau claire, y compris présence de personnes dans l'eau autour de la victime.
Il est donc conseillé d'éviter ces périodes de la journée, notamment pour pratiquer les sports nautiques et la chasse sous-marine, qui reste l'activité la plus à risque sur le territoire.
Des activités beaucoup plus à risque que les autres, en particulier la chasse sous-marine, puisque les chasseurs sous-marins représentent 50% des victimes d'attaques de requins en Nouvelle-Calédonie, de par l'activité elle-même, la capture du poisson, ça génère des stimulations alimentaires pour le requin, c'est-à-dire qu'il y a la trace odorante du sang du poisson dans l'eau, il y a les vibrations du poisson agonisant, il y a le stimulus visuel d'un poisson plus ou moins argenté qui se débat. Donc tout ceci attire des requins et donc potentiellement des requins dangereux pour l'homme et capables d'attaque. Il est certain qu'il ne faut pas chasser de nuit et traîner son poisson à la filoche. Il est certain qu'il faut sortir le poisson le plus rapidement de l'eau sans le saigner, le vider, comme je l'ai vu faire. En Nouvelle-Calédonie, on utilise des petites bouées sabots qui sont très bien, qui sont conçues pour ça. Mais ça reste une activité à risque, la chasse sous-marine, contrairement à la plongée sous-marine, pour laquelle les risques d'attaque sont extrêmement faibles.
Le docteur Claude Maillot estime qu'on manque cruellement de données concernant le comportement des requins et qu'il faudrait que des études soient menées sur le territoire, notamment pour connaître la population des squales dans nos eaux. Pour le moment, on ne sait pas avec certitude pourquoi les attaques se multiplient ces dernières années.
Il faut bien se rendre compte que la Nouvelle-Calédonie, de par le fait que la zone économique est sous protection de la France, c'est une espèce de sanctuaire pour un certain nombre d'espèces qui sont pêchées de façon tout à fait raisonnable, et qu'au dehors, à côté, se développe un grand désert avec de la pêche illégale. Alors est-ce que par hasard, il n'y aura pas une concentration de ressources pour les requins autour de l'archipel qui, de fait, attirait les requins?
Et il y avait aussi l'hypothèse des réserves naturelles aussi, près des côtes aussi, qui pouvaient attirer les requins. Ça, vous y croyez ou pas?
Non, moi j'y crois beaucoup moins parce qu'elles ne sont pas extrêmement étendues. Je crois plus que ça fonctionne à une échelle beaucoup plus large. Je pense ça parce que les requins, je vous parle du tigre et du bulldog, ce sont des animaux qui sont capables de faire des déplacements de milliers de kilomètres. Par exemple, on a vu des requins-tigres originaires de Norfolk atteindre le lagon sud calédonien. Donc je pense que c'est ces échelles-là, si toutefois cette hypothèse se vérifie.
Et dans la lutte contre le risque requin, le docteur Claude Maillot cite en exemple les barrières qui ont été installées à Nouméa. Le spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale était notre invité ce matin. Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc.
Demain soir, c'est la fête du Tet, la fête la plus importante du calendrier sino-vietnamien. Un repas le plus souvent pris en famille à l'occasion de cette fête qui est agrémentée d'un certain nombre de spécialités culinaires, Léana Colombo.
Et difficile de ne citer que quelques plats traditionnels, tant la cuisine du Tet se distingue par sa richesse et sa diversité. Des spécialités qui diffèrent selon les pays et les régions, même si les plus aguerris pourront y retrouver une certaine similitude dans les saveurs. Et si l'on devait parier, il y a très certainement un plat emblématique qui sera sur les tables de la communauté asiatique demain soir, révèle Stéphane, gérant du snack Grenadine à Nouméa.
Typiquement, le plat traditionnel du Tet, c'est le bánh chưng, riz gluant, aussi enrobé des haricots. À l'intérieur même, vous avez du porc mijoté d'abord. Et moi, je suis nord, donc typiquement, le bánh chưng chez nous, c'est en rectangulaire et le sud, c'est en rond. Et ça se prépare à l'époque de mon père. On se réunit 2-3 jours avant, on prépare les feuilles bananes, le riz, la viande. Et on se met tout autour de la table, on préparait, et le soir, dès que couche le soleil, on se met le feu. Avant, à l'époque, il n'y a pas de gaz, il n'y avait que le charbon et le bois, puis on mettait une grosse casserole, tout le monde autour, et la cuisson durait 7 à 8 heures pendant toute la soirée. Et le lendemain, c'est moi.
Mais les plats traditionnels du Tet ne se limitent pas à ça. De la variété, il y en a. Et pour tous les goûts, explique Aline, gérante du café d'Austerlitz.
Vous avez des pâtés de porc, de zor, qui s'appelle zor. Et après, vous avez de la soupe de bambou, de pâtés de tête. Et après, vous avez des nems. Après, voilà, vous avez certains, surtout là en ce moment au foyer vietnamien, pour la fête du Tet, ils font plein de plats traditionnels, quoi.
Le régluant est un ingrédient incontournable de ces recettes culinaires. Il est donc utilisé pour les préparations salées, mais aussi sucrées, pour terminer son repas sur une note gourmande. Léo Anani, gérante du restaurant L'Ingrédient, nous détaille certaines recettes.
Par exemple, c'est le régluant, tu mélanges avec sucre brun, l'étalé, on fait la vapeur dessus pendant une heure. Il y avait les sésames noirs, ça veut dire que c'est toujours la base de régluant. Il fait les poules, l'intérieur, c'est les sésames, cacahuètes. Par exemple, sésame noir, sucre, plomb, avec des cacahuètes enveloppées par le riz cuillant. C'est un cristal sucré pareil, la base toujours sucre marron qui fait fondre dans le lot. Après, tu mets le poudre de sésame dessus. Il y a beaucoup de sortes de sucreries pour la fête de Nouvel An chinois.
La fête du Tet sera célébrée demain soir, mais il est déjà possible de retrouver dans les différents snacks et restaurants tous ces plats typiques.
Dans l'actualité de ce lundi également, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui lance un appel à candidature pour le prochain salon VivaTech. Et comme chaque année, la délégation New Caledonian Tech se rendra à Paris pour présenter ses innovations, Léo Fichou.
Le salon VivaTech, c'est le rendez-vous incontournable des startups françaises, européennes et mondiales. Il aura lieu le 11, 12, 13 et 14 juin prochain à Paris. Effectivement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lancé ces derniers jours un appel à candidature pour les startups du territoire qui se termine le 5 février prochain. Il ne reste donc plus que quelques jours. Une participation à ce salon permet aux entreprises innovantes d'accélérer les opportunités de marché, d'établir des partenariats nationaux et internationaux. Mais c'est aussi, comme l'explique Delphine Mallet, présidente de Vision, elle a participé au salon VivaTech en 2023, une crédibilité pour l'entreprise.
Ça a été un tremplin. Le truc, c'est que aller à VivaTech, ça prouve qu'on ne fait pas que du vent, qu'on a vraiment quelque chose. Donc, niveau crédibilité, on est un peu au top de ce qu'on pourrait avoir. Et nous, c'est tombé pile à ce moment-là où on était en levée de fonds sur le territoire. Et typiquement, aller à VivaTech, si on va sur un salon, on montre ce qu'on fait, ça prouve qu'on a vraiment quelque chose. C'est pas juste des belles paroles. Donc, on a gagné énormément en crédibilité et du coup, les investisseurs ont suivi. En fait, le fait d'aller à VivaTech, ça nous a permis d'avoir des rendez-vous avec nos clients qui ont dit « Ah d'accord, ils vont à VivaTech ». Donc, encore une fois, c'est pas juste un projet en Nouvelle-Calédonie, c'est une société qui a un produit.
La société calédonienne Vision a mis au point une plateforme innovante Pictum qui permet aux visiteurs d'aquarium d'interagir en temps réel avec les poissons. Et malgré les excellents retours suite à la participation au salon VivaTech, c'était en 2023, la société a été comme beaucoup d'autres sur le territoire confrontée aux émeutes. On retrouve Delphine Mallet.
Hyper frustrant parce qu'en fait, nous, on pensait que nos clients, on pouvait tout gérer à distance depuis la Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'aller voir nos clients sur place et si on est bloqué sur le territoire sans pouvoir bouger, dès que le client il veut nous voir, on loupe des ventes et on perd en crédibilité. Encore une fois, nos clients ils sont loin et nous on leur dit pas de souci, on se déplace, on vient vous voir, etc. Et le problème c'est qu'avec les émeutes, le fait de bloquer l'aéroport, l'export est très compliqué.
Mais vous l'aurez compris, ce salon VivaTech est un passage indispensable pour le développement à l'international des startups du territoire. Toutes les informations à propos de l'appel à candidature pour le prochain salon qui est prévu, on le rappelle, à Paris en juin sont disponibles sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Et à 11h48, on va tourner une nouvelle page de publicité dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole pour commencer, la mort d'Elias, 14 ans, poignardé à mort en plein Paris vendredi dernier pour un téléphone portable, fait beaucoup réagir. Deux suspects âgés de 16 et 17 ans sont en garde à vue et l'un d'entre eux a avoué avoir porté le coup mortel. Les deux adolescents, déjà connus des services de police, auraient tenté de voler le téléphone portable de leur victime qui sortait d'un entraînement de football. Dans le 14e arrondissement de Paris, le quartier où vivait Elias, il y a beaucoup d'émotions mais aussi d'inquiétude face à cette violence. Le reportage d'Antoine Bienvaux pour Europe 1.
C'est une pluie fine qui s'abat ce dimanche sur le pavé de l'avenue Maurice d'Ocagne, théâtre vendredi de la tragique agression du jeune Elias, 14 ans. Sur les lieux du drame, quelques riverains s'arrêtent, la mine grave, pour déposer des fleurs et des mots d'amour.
J'ai déposé des fleurs parce que je pense aux parents de ce jeune garçon de 14 ans. Pour un téléphone portable, on peut se faire tuer.
De quoi on parle en fait? Moi j'habite juste derrière, je suis effarée.
À quelques mètres, un homme se recueille, lui aussi en silence, particulièrement bouleversé par la mort du jeune garçon.
Très choqué, j'en suis venu à en pleurer dès que j'ai appris la folie meurtrière qu'il y a eu à travers ces adolescents. D'autant plus que je connaissais la maman concernée, donc je suis venu le recueillir sur le lieu du drame.
Dans le quartier, les voitures de police sont nombreuses, une présence qui rassure légèrement cette autre habitante désarçonnée par la violence des agresseurs.
Je sais pas où va cette jeunesse, hein. C'est une jeunesse qui va à la dérive et je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des réseaux? Est-ce que ça vient de l'éducation? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est hyper triste.
Comme tous les passants, elle espère désormais que les agresseurs d'Elias seront sévèrement condamnés et qu'un tel drame ne se reproduise jamais sous ses fenêtres.
La montée de la violence chez les jeunes ne cesse d'interpeller. Elle doit aussi interroger sur plusieurs aspects, notamment la notion d'excuse de minorité. Il faut la remettre en question, estime l'ancien garde des Sceaux Dominique Perben.
Le niveau de violence et de délinquance des mineurs s'est terriblement accentué. Et je pense qu'une des premières choses à examiner vraiment de très près, c'est le problème de l'excuse de minorité. Cette minorité, il faut se poser la question de savoir si elle doit être à 18 ans, à 16 ans ou à 14 ans. Et là, il y a vraiment quelque chose qui me paraît devoir être revu. Le deuxième sujet qui me paraît très très important, c'est celui de l'exécution des peines. En effet, on s'aperçoit que pour les mineurs, et malheureusement aussi pour les adultes, il y a parfois réitération avant même l'individu ait purgé sa peine. Et donc il faut vraiment que le ministère de la Justice mette les moyens pour que les peines soient exécutées effectivement et qu'elles le soient rapidement.
Dominique Perben, ancien garde des Sceaux dans le gouvernement Raffarin. Et dans ce contexte, on a appris que l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, allait réunir la nuit prochaine pour nous les procureurs pour donner de nouvelles instructions sur la politique pénale. L'actualité en métropole, c'est aussi le passage de la tempête Herminia sur la Bretagne. Elle provoque des crues que la ville de Rennes n'avait pas connues depuis 40 ans. La montée des eaux sur un canal de la ville a obligé la mairie à prendre un arrêté d'évacuation. Plusieurs rues ont été évacuées. Il a ouvert également 3 gymnases pour accueillir les personnes qui ne peuvent pas rentrer ou rester chez elles. 8 départements sont toujours placés en vigilance orange. À l'étranger, l'accord entre le Hamas et Israël n'a semble-t-il tenu qu'à un fil ce week-end. 4 nouveaux otages, 4 femmes ont bien été libérées par le groupe terroriste. Mais selon Israël, une otage de plus devait retrouver la liberté. Selon toute vraisemblance, ce devrait être le cas dans les jours qui viennent. Les explications de Frédéric Simon pour Europe 1.
En Israël, on confirme que des progrès ont été effectués dans les pourparlers pour la libération d'Arbel Yehoud. Le 7 octobre 2023, cette jeune femme de 29 ans avait été capturée par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Nir Oz, à proximité de la bande de Gaza. Elle est considérée par Israël comme la dernière femme civile encore en détention. Or, le Hamas était engagé à libérer les civils avant les soldats. La libération des hommes âgés de plus de 50 ans ou blessés devant suivre. En réaction à cette violation des termes de l'accord par l'organisation islamiste, Israël refuse de permettre le retour de plusieurs centaines de milliers de civils palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Une situation contraire à l'intérêt du Hamas et aussi à celui du djihad islamique, une autre organisation terroriste. C'est elle qui détient Arbel Yehoud. Elle affirme avoir transmis à Israël des signes de vie de l'otage. Aucun accord formel n'a été conclu, mais ce ne serait plus qu'une question d'heure. Une libération d'Arbel Yehoud dans les jours qui viennent est désormais probable.
La gestion de la crise des otages est l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre israélien ne participera pas aux cérémonies qui vont marquer dans quelques jours, demain, le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Benjamin Netanyahou fait partie des absents de marque. Écoutez l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka.
Le Premier ministre israélien est un peu occupé en s'occupant de la libération de nos otages, de la guerre, et de faire en sorte que les choses commencent à rentrer dans une certaine normalité en Israël. Alors, malheureusement, il n'aurait pas pu participer.
Il faut noter également que Benjamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Toutefois, les autorités polonaises avaient affirmé qu'il pourrait circuler sans peine sur son territoire, ce qui n'est pas le cas pour le président russe Vladimir Poutine, lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais qui n'a pas été invité en raison du conflit en Ukraine à ses commémorations. Donald Trump, lui, ne sera pas non plus présent et enverra un conseiller spécial.